Toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est certaine, le complot exige un esprit rare.
Quel plaisir gigantesque de reprendre ce podcast. J'avais presque oublié ce que c'était d'avoir le temps de poser toutes les questions que je veux. Et la première vieille branche de cette nouvelle saison m'a rappelé la joie que ça pouvait être. Il s'appelle Greg Germain. Vous l'avez peut-être vu dans Médecin de nuit, dans H. Vous l'avez peut-être entendu en regardant Le Prince de Bel-Air en VF ou presque tous les films de Will Smith. Parler à Greg Germain dans l'ambiance actuelle, qui sent un peu pas bon, on va être honnête, c'est faire discuter Édouard Glissant et Aimé Césaire. Et je peux vous dire qu'entre deux embauches d'anciens de valeur actuelle à Europe 1 et au gouvernement, ça fait un bien fou. Quand on arrive chez Greg Germain, on commence par se tromper d'ascenseur avant d'arriver dans un appartement plein de cartons. Greg Germain vient d'emménager, mais au mur, il y a des tableaux partout. Le canapé n'est pas encore en place. En revanche, les tableaux sont accrochés. Des tableaux choisis avec soin. Ça se voit franchement au premier coup d'œil. Bref, si vous avez un coup de blues à chaque fois que vous allumez la télé, surtout éteignez-la, écoutez Greg Germain, un peu d'intelligence dans ce monde de brut.
Pourquoi vous?
Non, moi,
ça fait quand même quelques années que je sais pourquoi moi, parce que nous ne sommes pas beaucoup dans mon cas, en ce qui concerne l'endroit d'où je viens, la couleur que j'ai et le pays dans lequel je vis. Donc, ça fait quelques temps que je sais que c'est moi. Ce que je déplore, c'est que nous ne soyons pas plus nombreux, et que même encore aujourd'hui, on en parlera. C'est encore moi.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De toute de la
je
vie.
Suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieille branche. Je suis Barry Misset, et aujourd'hui, je suis dans la cuisine de Greg Germain. Bonjour Greg Germain.
Bonjour Marine.
Marie.
Bonjour, Marine Rowe, c'est pas Marine ?
Marine, c'est Marine.
Ah, Marine Rowe. Ah.
Et moi, c'est Marie. Comme ça, on peut passer beaucoup.
Bonjour Marine, bonjour Marie.
Merci de nous accueillir chez vous, dans le centre de Paris, dans ce très bel appartement, avec déjà plein de tableaux au mur, alors que vous venez d'emménager, si je comprends bien.
C'est vrai.
Vous êtes né dans un archipel qu'on appelle la France, Greg Germain, plus précisément en Guadeloupe. Homme de théâtre, vous avez jamais cessé de vouloir créer des liens, des ponts entre les différents territoires de ce pays parfois un peu compliqué, qui a une légère tendance ces derniers temps à se crisper sur sa métropole, alors qu'il est riche de tant d'ailleurs. Vous avez été acteur, metteur en scène, vous avez ouvert un théâtre dans une vieille chapelle à Avignon, ça s'appelle la chapelle du Verbe incarné, où se sont justement incarnés les mots de l'outre-mer. Vous avez été directeur de ce capharnaüm absolument merveilleux qu'est le Off d'Avignon. Bref, vous n'avez pas chômé, et puis soyons honnêtes, j'ai gardé non pas le meilleur, mais peut-être le plus savoureux pour moi pour la fin, en tout cas pour ma génération. Depuis Le Prince de Bel-Air, vous êtes aussi la voix française de Will Smith. La voix française de Will Smith a donc quasiment 73 ans.
Oui, c'est vrai. Mais il paraît que les voix, ça ne vieillit pas autant que les corps, et que je peux encore faire la voix d'un homme de 40 ans. Et séduisant. Mais il en a déjà 50 hein, quand même.
Ouais, il a 50 ans maintenant, Will Smith, qui ne nous rajeunit pas. J'avais déjà parlé à la voix d'Homer Simpson plusieurs fois, ce qui était plaisant, mais je dois bien avouer que la voix de Will Smith, ça me fait un petit effet en plus. Avant de plonger dans vos souvenirs, Greg Germain, je voulais vous demander comment est-ce que vous aviez vécu ces derniers mois qu'on vient tous de vivre.
C'est une année un peu difficile, bien entendu. Et je ne peux pas dire que je l'ai mal vécu, d'abord parce que ça m'a permis de faire un retour pendant ces 3 mois de confinement sur moi-même un peu et sur la famille que j'ai, hein, puisque le nucléus, c'est ça.
Donc vous avez resserré les liens, vous avez.
Oui, c'est ça. J'ai revu, j'ai fait des retours sur des textes que j'avais écrits, sur des choses que je voudrais écrire. J'ai réappris des textes, puisque moi, j'aime bien apprendre de ce. Ce matin, par exemple, j'apprenais le rôle de mafio de Lucrèce Borgia. J'aime bien faire ça pour entretenir ma mémoire.
Mais pour ne pas forcément les jouer, pour les avoir en tête.
Heureusement, parce que j'ai appris beaucoup de textes, j'ai appris du Racine, du Molière, du Edmond Rostand. Et on ne vous demande pas, lorsque vous êtes un acteur noir, de jouer Molière, Racine ou... Shakespeare ou Edmond Rostand.
En France. Est-ce que vous avez l'impression que ces derniers mois, le Covid-19, disent quelque chose de le rapport qu'on a en tant que société à notre vieillesse ?
Je ne sais pas si c'est à la vieillesse, mais je sais que le paradigme a changé. J'en suis convaincu. Vous savez, ce qui s'est passé aux États-Unis, qui peut se passer en France, évidemment, avec... quelques violences qui ne sont pas que policières d'ailleurs, mais enfin on a coutume de les appeler les violences policières, et notamment aux États-Unis avec l'histoire de George Floyd par exemple. Vous savez, il y a 6 ans, il est arrivé la même chose à un homme qui s'appelle Taylor. Ça n'a pas dérangé grand monde. Le mouvement Black Lives Matter a commencé à ce moment-là d'ailleurs. Voilà. Mais George Floyd, parce que la planète entière, je crois, qu'elle s'est aperçue pour la première fois, en tout cas dans le monde occidental, qu'elle vivait les mêmes choses au même moment. Et je pense que ça a déclenché quelque chose. Le monde, je pense, a changé de paradigme. Je crois que même l'Europe, qui court après ce libéralisme qui a été inventé par Reagan et Thatcher il y a 40 ans, même la communauté européenne s'est dit qu'il faudrait mettre de l'argent pour que ce ne soit pas le tout productivité, mais aussi pour que les gens puissent vivre puisqu'ils ne peuvent pas travailler. C'est très rare. C'est même très rare aussi aux États-Unis, malgré le fou qui est à la tête de ce pays. Donc, je sais que ça a changé de paradigme. Je sais que les jeunes, parce que c'est sans faire de jeunisme, je sais que je compterai beaucoup sur les jeunes pour ce qui concerne l'écologie, pour ce qui concerne les nouvelles écritures, les nouvelles sociétés. Je pense que ce sont les jeunes qui s'en sont aperçus et qui sont du bout à l'autre de la planète et qui se donnent la main comme ça.
En tout cas, ça fait envie. Vous croyez que ça s'est cristallisé autour de George Floyd, ce changement?
Non, George Floyd est l'exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Je crois que la planète entière a été émue de voir un mec pendant 8 minutes. C'est très long, 8 minutes, essayer de vous mettre à genoux, même pas sur le dos de quelqu'un, sur la gorge de quelqu'un, mais sur un coussin, vous allez voir, c'est très long. Je crois que ça a ému la planète entière, ce qui ne se faisait pas avant. Alors, on va me dire, oui, mais écoute, Coco, depuis le temps, tu vois, hier, il y a un camp de migrants qui a brûlé à Lesbos, il y a tel truc qui est arrivé dans le monde. Mais je pense, moi, que le monde veut changer de paradigme. Et que pour la première fois, il s'est aperçu que peut-être qu'il pouvait le faire.
Qu'il y avait moyen, oui. Quand tout s'arrêtait, c'était possible, en fait.
Oui, oui.
Voilà. Très rapidement.
C'est possible, oui.
En deux jours. On va revenir sur une époque un peu plus lointaine. Dans quel genre de famille vous avez grandi ? J'ai des informations un peu éparses. Je sais que votre grand-père a tenu un cinéma, que dans votre famille, on voyait bien, beaucoup plus jeune, devenir médecin ou avocat. C'était quoi votre famille ?
Ma famille, c'est... Comment je peux vous dire ça ? Vous savez, les familles sont différentes. Le nucléaire familial est différent. Mais dans mon pays, qui a été marqué par de terribles histoires, dans mes îles, où ça a été marqué par de terribles histoires, le génocide des Amérindiens, l'arrivée des nègres d'Afrique, la mise en esclavage, la libération, une première fois, nous pourrons en parler de cet esclavage grâce à la Convention et à Robespierre, puis la remise en esclavage par Bonaparte, pas dans toutes les îles, seulement dans l'île de Guadeloupe, qui avait été... où l'esclavage avait été aboli grâce à la Convention. Ça n'a pas pu être le cas en Martinique, par exemple. La Martinique est restée toujours esclavagiste. Donc, puis la relibération en 1948. Moi, je connais bien l'histoire de ma famille. parce qu'elle est originaire des deux parties de l'île. Mon grand-père est un homme de Marie-Galante, qui est une petite île à côté de la Guadeloupe. Je sais que sa mère, sa grand-mère, était esclave. C'est probable à Marie-Galante, mais du côté de ma mère, je sais que nous arrivons, et je dis nous aussi, depuis 1740 d'Angoulême, que j'ai probablement ma grand-mère maternelle directe est une blanche Matignon, c'est-à-dire des blancs qui sont... Mon arrière-grand-mère, plutôt maternelle, c'est une blanche Matignon, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu la guerre de Guadeloupe, la première guerre de libération des esclaves par Victor Hugues en 1794, quand il a débarqué en Guadeloupe, il a rejeté les Anglais à la mer, il a libéré tous les esclaves qui se sont battus avec lui et chassé aussi les blancs qu'il a déclarés émigrés, comme en France. Et il y en a une partie qui est partie se cacher dans les grands bois. Ça fait partie de ma famille, celle-là aussi.
Donc des blancs qui se sont cachés dans les grands bois.
Qu'on appelle des blancs matignons. Je vais d'ailleurs peut-être probablement faire un documentaire à ce sujet, si, évidemment, maintenant que France O n'est plus, si ça existe, si ça est, oui, c'est le frigo qui fait ça, si ça intéresse une chaîne qui, paraît-il, va faire la diversité, je crois, hein, c'est ça, les autres
en
chaînes
cas,
vont faire la diversité. Le chef de l'État a dit, oui, non, mais il ne faut
après
pas être chaîne particulière.
Après avoir promis que François continuerait à exister.
Il y a quelque chose de rare, il y a des gens qui disent, une parole, c'est très important. Donc une parole, c'est rare, c'est pour ça, à chaque fois que je la donne, je la reprends. C'est peut-être ce qu'il fait. Non, donc j'espère que, peut-être, parce que c'est l'histoire de notre pays aussi, de nos pays, si je puis dire.
En tout cas, ce qui est dingue, c'est que quand je vous demande quel genre de famille était votre famille, on a toute l'histoire de la Guadeloupe d'un coup
d'un
seul.
C'est un petit peu ça. Donc, ma mère, directrice d'école, mon père, inspecteur central des douanes, petite bourgeoisie, toujours une voiture à la maison, une servante, pardon de dire ça. Six frères et sœurs, non, parce que ça fait pas bien d'être un petit bourge, six frères et sœurs, une fratrie un peu clanique comme ça, et voilà, non, j'ai pas souffert voilà.
Alors, vous n'avez pas souffert de quoi? Du métissage
Non, le métissage, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Non, je n'ai pas pas tellement du métissage. Nous y reviendrons, si vous voulez, de ce que j'appelle, moi, la créolisation. Mm-hmm. Non, au contraire, je trouve que c'est extraordinaire. C'est une chance magnifique. C'est peut-être ça, lorsque je fermerai les yeux, que je me dirai, t'as une chance extraordinaire. Non, je n'ai pas vécu en banlieue, dans un truc difficile, mes sœurs, les caves, la drogue, je ne connais pas.
Ouais, je m'en doutais un petit peu.
Je sais ce que c'est, évidemment, parce que j'ai une sensibilité d'artiste. Oui, j'ai vécu aussi en banlieue. Si, j'ai vécu à Épinay-sur-Seine, à Enghien, je mets à la limite des départements. C'est toujours la même chose, quoi. C'était pas le 9-3 que vous connaissez ou le 9-4. Donc j'ai été plutôt épargné de ce côté-là.
Pour rester un petit peu dans votre famille, je crois que votre grand-mère a été une figure assez importante, ou en tout cas qu'elle vous a beaucoup encouragé. T'es petit dans vos aspirations artistiques?
Ma mère.
Votre mère, pas votre grand-mère?
Ma mère, pas ma grand-mère, ma mère.
Je ne sais pas pourquoi j'ai inventé ça.
Mais c'est pas grave. Ma mère, c'est ma mère qui, la première fois, m'a emmené au théâtre lorsque j'avais 9 ans en France. Et puis après, lorsqu'on allait tout le temps au théâtre en Guadeloupe, lorsque les tournées... Jean Gosselin passait sur leur route d'Amérique du Sud, puisqu'à cette époque-là, la culture française, par bateau, partait, Guadeloupe, Martinique, Argentine, Brésil, etc. Et puis ils partaient 6 mois pour faire des tournées, c'était magnifique.
Ah,
pour
la culture, eux. Ouais. Le monde et de la culture française partait.
Oui, et après, j'ai rencontré ces acteurs-là. Il y en a que j'ai rencontrés, que j'avais vus lorsque j'étais petit, mais qui n'étaient pas bien plus âgés que moi. Ils devaient avoir peut-être 15 ou 18 ans de plus que moi, à 15 ans. Il y a 10 ans, j'avais rencontré quelqu'un qui avait joué une pièce de théâtre que tout de suite après l'avoir vue, j'ai décidé d'apprendre le rôle de Pyrrhus, c'était Andromaque.
Ah oui, donc vous appreniez déjà des textes tout jeune, par amour des mots,
par amour des textes, évidemment. Je ne me suis jamais dit... Est-ce que je me suis jamais dit ça? Je ne sais pas. Non, en tout cas, je me suis jamais dit, apprends-le, ça va te servir.
Non, c'était pas dans voilà. Un but utilitaire, c'était parce que vous aimez.
Sauf une fois, et je peux vous raconter l'anecdote, évidemment. J'ai fait un film qui s'appelle Borsalino & Co. J'avais un petit rôle, mais qui se voyait quand même. Et le premier assistant m'avait remarqué. Un an après, il m'appelle pour me dire, écoute, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, comme il vaut toujours mieux faire envie que pitié, je lui dis, je répète. Et il me dit, mais tu répètes quoi? Je lui dis, en passant, j'avais vu une affiche Phèdre. Je lui dis, je répète Phèdre. Quel rôle? Le rôle de Théramène. Mais j'avais lu Phèdre en quatrième, et je me souviens des textes. Il me dit, est-ce que ça te dérange? Tu viendras faire une audition à Telle France, à Oudan et ça sera en présence de l'auteur qui s'appelle Bernard Kouchner et des réalisateurs. Bon, je dis d'accord. Et puis, en rentrant chez moi, je me dis, en raccrochant, je dis, bon, j'ai intérêt à relire
Phèdre
et de revoir le rôle de Théramène que je connaissais, parce que c'était que ça que je pouvais jouer. Je ne pouvais pas jouer Phèdre, même en France, même un metteur en scène, pas de l'institution, un jeune noir jouer Phèdre, non.
Même aujourd'hui,
non. Encore aujourd'hui, encore moins. Je me suis dit Thésée, non, je suis trop vieux. Hippolyte, Thésée, non, je suis trop jeune. Hippolyte, non, je suis trop vieux. Théramène, bon, donc j'ai appris le rôle de Théramène. Et effectivement, lorsque je suis arrivé pour faire cette audition, ils m'ont demandé, Bernard Kouchner, qu'est-ce que je faisais en ce moment? Et puis j'ai dit, je répète, une pièce de théâtre, persiste dans mon mensonge. Quel rôle Théramène? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques? Bien sûr. Et donc.
Heureusement.
Ouais, ouais.
Et vous avez eu le rôle?
C'était.
Parce que je sais que vous avez collaboré avec Bernard Kouchner.
C'était
après,
pour jouer une série que vos mamans, peut-être, connaissent bien, qui s'appelait Médecin de Niche.
Oui. Vous étiez médecin d'ailleurs.
Oui,
on va faire un aparté, mais c'est pas grave, on va sauter d'époque en époque. Médecin, où vous étiez médecin et où vous avez refusé à plusieurs reprises et dit à Bernard Kouchner, je refuse.
Je ne sais pas, passer comme ça. Oui,
je refuse. Disons, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France et que des Français blancs face à un médecin noir n'auraient pas de réaction.
Exactement.
Très comme si rien n'était.
Et Bernard en a convenu très justement. Écoutez, on sonne à 2h du matin chez quelqu'un qui attend le médecin. Il voit un noir devant lui, même si le noir est bien mis. Il dit oui, c'est pourquoi. On l'écarte avec beaucoup d'autorité en disant vous m'avez appelé, je suis médecin. Bon.
En fait, ce que vous avez dit à Bernard, je ne dis pas que vous avez à Bernard Kouchner, c'est ce qu'on appelle le color blind, que les gens ne voient pas que je sois noir ou blanc, ça n'est pas vrai,
ça n'existerait pas. Et puis qu'on soit clair. Pour moi, ça prend simplement que les gens sont comme ils sont et que soit ils sont bien, soit ils sont pas bien. Je veux dire, mais je sais bien que ça s'est beaucoup crispé. Moi, je suis un fin observateur de notre pays depuis, les 50 dernières années. Et je m'aperçois bien que ça se crispe, quoi. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé petit à petit, qui a été instillé dans les veines des Français, cette façon de voir les étrangers. Je me souviens très bien des premières fois qu'a apparu Jean-Marie Le Pen, ce qu'il disait sur les étrangers. Puis bon, il y a des amalgames qui se font, 3 millions d'étrangers, 3 millions de chômeurs, c'est les immigrés, c'est etc., etc. Donc on s'aperçoit bien que c'est un discours qui a petit à petit infusé dans les veines des Français de France métropolitaine, même si je n'aime pas dire ce mot, des Français de France de l'Hexagone ou de la France continentale ou de la France européenne, si vous voulez.
Je vous jure que c'est vrai. Le soir même de cet entretien avec Greg Germain, Nicolas Sarkozy demandait dans l'émission Quotidien si on avait encore le droit de dire singe. Plus tôt dans la semaine, Gérald Darmanin parlait d'ensauvagement, un terme qu'il a piqué à l'extrême droite. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises avec Greg. Autant vous dire que les propos de Greg Germain ont été largement et tristement démontrés ces dernières semaines dans l'espace médiatique et que l'infusion a effectivement fait son œuvre. Et justement, j'avais un peu envie de vous poser cette question. Quand vous étiez tout jeune, donc vous avez été pensionnaire à Lisieux, chez les Jésuites, puis dans l'Orne.
Alençon.
Alençon, oui. J'ai un souvenir d'une interview de Manu Dibango, qui n'a pas du tout la même histoire que vous, mais qui a été comme ça dans des pensionnaires au même âge, un petit peu 10 ans avant, disons, à peu près, puisqu'il est décédé à 83, 84 ans, et qui disait, moi, j'ai pas du tout vécu le racisme enfant dans ces pensionnaires-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez prendre à votre compte aussi?
Oui, mais c'est... Bon, moi...
C'est pas la même histoire, déjà.
On vit à peu près... Bien sûr qu'une fois, quand j'étais petit, j'avais 9 ans, mais c'est pas ça que je vais appeler du racisme. J'avais 9 ans, je courais, mon lacet s'était délacé, je vois ça encore parfaitement, je m'arrête pour l'attacher, et des gens en passant, il y a une fille qui a mis sa main sur mes cheveux, alors maintenant j'en ai plus, je les ai rasés volontairement, non pas pour ça, en disant « Oh, c'est tout doux !» Bon. Cette, entre guillemets, chosification de ma personne m'a fait me relever en un bond en disant « Mais est-ce que je touche tes cheveux, toi ?» Et puis je suis parti en courant. Mais c'est pas...
Oui, vous ne pouvez pas vraiment parler
oui,
de...
Je ne peux pas dire ça. Donc non, j'ai toujours été très bon en français, plutôt même brillant en français et en philo. J'ai toujours eu... presque toujours eu le premier prix. Oui, j'ai eu un cas de racisme évident lorsque je devais avoir 16 ans, je devais être en seconde ou un truc comme ça. La prof, je ne me souviens même plus de son nom, c'est pas très important, la prof de français est arrivée, elle a donc vu la classe, hein, elle a donné une composition à faire, à remettre pour le prochain cours de français, donc j'ai fait ma compo comme tout le monde, et puis je l'ai remise, et puis elle savait pas qui étaient les élèves, et elle dit j'ai une très belle composition, Greg Germain, c'est très bien, qui est Greg Germain? Je me suis levé, je n'ai plus jamais eu la moyenne.
Plus jamais eu la moyenne.
La moyenne, ah ouais. Plus jamais.
Alors que la première copie était excellente.
Je n'ai plus jamais eu la moyenne. C'est vous? Oui. Quasi, si elle a pas dit, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'appelle... Et je n'ai plus jamais eu la moyenne. Mais ça n'était pas... Ça me faisait plutôt rire, d'ailleurs.
Ouais.
En fait, oui. J'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport à ça. Ça m'aurait peut-être rendu plus furieux si j'étais plus vieux à ce moment-là. Parce que je savais que je n'allais pas avoir le prix de français cette année. Et quand mes parents m'ont dit « Tiens, c'est bizarre, ça marche pas bien en français », je dis « Oui, bon, je n'ai même pas dit ça à mes parents. »
Vous ne l'avez même pas raconté ?
Non.
Parce que ça les aurait blessés ?
Je pense.
J'ai une image au-delà de ces pensionnats des années 50 comme des endroits très très durs, voire violents. Est-ce que c'est
non.
complètement
non.
une image qui
non.
n'existait pas dans la
vraie vie non, les pensionnats, non. Enfin bon, moi j'étais pas... Non, j'ai été deux fois pensionnaire, une fois à Lisieux, donc chez les Gèzes, et une autre
c'est
fois...
C'est les Gèzes belle abréviation.
Et une autre fois, c'est comme ça qu'on dit, et une autre fois à Alençon, dans l'Orne, au lycée Alain. Je me suis fait virer les deux fois d'ailleurs.
Pourquoi? Je vous ai déjà entendu dire que vous aviez été viré deux fois. Pourquoi?
Plusieurs fois. Non, parce que j'étais pas insolent. Je sais pas comment on peut qualifier ça. Si j'avais été prof, comment j'aurais trouvé l'élève que j'étais? Je pense qu'il m'aurait énervé. Je pense que cet élève-là m'aurait énervé parce que... Je sais pas, il m'aurait énervé, cet élève. Donc je peux comprendre très bien les profs que ça énervait. Je faisais le mur tout le temps. Enfin bon, c'était pas bien.
Et vous avez par contre, peut-être qui était agaçant chez vous pour vos professeurs, c'est que vous avez dû avoir très jeune une certaine confiance en vous pour vouloir vous lancer dans le théâtre. Être aussi sûr de vous, aussi sûr de cette vocation, être si jeune.
C'est probablement ça qui devait transparaître. Probablement, c'est ça.
La confiance.
Quand ça paraît très vite de l'arrogance, qu'on ne peut pas forcément tolérer chez quelqu'un qui est censé être votre inférieur, puisque noir, ou en tout cas, votre inférieur parce que petit. Parce que apprenant et que vous êtes un prof, hein, bon. Donc, bon, Ça ne m'a pas gêné dans ma vie.
Ça ne vous garde pas, vous n'en gardez pas rancœur. Non, vous n'avez pas l'air de garder rancœur de beaucoup de choses.
Non, pas du tout. Non, ouais, non, non, parce que je pars du principe que garder des rancunes, des aigreurs...
C'est à vous que ça fait mal.
Ouais, c'est con, c'est, ça ne vous donne pas une belle âme. Ça vous, donne, vous m'avez vu, vous voyez
là, ouais, c'est vrai que c'est un peu scandaleux.
Bon, voilà.
Personne ne pourrait deviner que Jacques Germain a 73 ans quasiment.
Je vous annonce 60 ans et vous dites « Ah ouais, ouais bon, quand même. Ouais. » Non, bon, voilà.
Donc ça vous garde jeune.
Oui, quoi. Je pense. Le je pense que ça, 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 ouais, ça, ça fait que je... Voilà, je... Oui.
En tout cas, ce qui vous a lancé assez définitivement dans le théâtre, dans votre passion, c'est une rencontre, celle avec Christophe Bourseiller, ou je me trompe?
Non, Christophe était bien trop jeune, avec Antoine. Alors, je vais vous dire comment c'est arrivé. Les parents étaient partis, j'avais 21 ans, les parents étaient partis pour la Guadeloupe en vacances, et moi j'ai dit que je reste parce que j'avais vu des chaussures, des pompes, boulevard Saint-Michel, que j'avais trouvé vraiment extraordinaire, mais c'était un peu cher quand même.
Attends, vous êtes resté parce que vous aviez vu des chaussures extraordinaires?
Oui, non, parce que je me suis dit, je vais travailler pour pouvoir, pouvoir me payer ce truc. Et puis, un matin, je tombe sur un copain qui me dit, dis donc, est-ce que tu sais où ça se trouve, les buts de Chaumont? Je dis non, pas du tout. Il me dit non, parce qu'il paraît que Jean-Christophe Averti, enfin que quelqu'un cherche des acteurs noirs. Non, des figurants. Je dis, moi, je voulais être acteur, figurant, je ne serai jamais... merci. Une semaine après, je rencontre un autre copain qui me dit, dis donc, tu sais que Jean-Christophe, tu sais que ça paye pas mal, figurant. Je dis, ah bon? Bon, ben écoute, on va aller voir. Jean-Christophe Averti, c'était Jean-Christophe Averti, a dit, ah bon, voilà, bon, ok. Alors, les acteurs d'un côté, les figurants de l'autre. Je me suis mis avec les acteurs, naturellement. Il a fait passer une audition. Naturellement, j'ai eu le rôle.
Naturellement.
Naturellement. Et là, voilà, c'est cette arrogance dont oui. je partais. Pas de l'arrogance qui est juste de
vous savez. Loin. Vous
voilà.
savez.
Quelqu'un m'a vu, Robert Liensol, qui est un acteur noir, qui est mort maintenant, m'a vu. Il a joué une pièce de théâtre avec Antoine Bourseiller. Il y avait une autre pièce qu'Antoine voulait monter qui s'appelait Le Métro Fantôme, The Dutchman en anglais, qui avait eu un Off-Broadway Award, enfin une récompense Off-Broadway. Et il a cherché un acteur et je répondais parfaitement à ses critères, jeune, beau, et qui, dans cette pièce-là, se fait, entre guillemets, agresser dans le métro de New York par une jeune femme blanche, évidemment, qu'il n'ose pas toucher parce que d'abord il est très propre sur lui, parce qu'il va à une fête chez probablement des bourgeois noirs comme lui, et elle l'agresse tellement qu'il finit par sortir hors de ses gonds. Elle le tue, après ce qu'il lui a dit, elle le fait jeter sur la voie par les autres voyageurs. Le métro s'arrête. Et au moment où le métro repart, il y a un jeune noir qui entre et elle commence exactement de la même manière. Bonjour, il la regarde, il dit bonjour, noir, rideau. Mmh. Le roi Jones, puisque c'est une pièce de le roi Jones, voulait simplement montrer que l'homme noir aura toujours affaire dans sa vie à ce genre de choses. C'est une bis repetita placat, c'est-à-dire que ça se répétera tout le temps.
Ce qui est encore le cas aujourd'hui quand on voit des trucs à la con, hein, mais la vidéo de la...
Tout à fait.
Le mec qui a pris cette balle. Oui, le mec qui a pris cette balle, puis même...
Cette balle. C'est... Bon, enfin bref, c'est pas grave.
Bref, tout ça pour dire que ça reste très actuel.
Ça reste très actuel, et je l'ai joué 500 fois, et c'est Antoine
Bourseiller. Vous êtes mort 500 fois.
Et je suis mort 500 fois, et 500 fois j'ai mangé une pomme, parce qu'à un moment, il mange une pomme dans la pièce, ce qui fait que pendant très longtemps, j'ai pas voulu manger de pomme, parce qu'en mangeant la pomme, c'était à ce moment-là, il y a toujours le mythe d'Adam et Ève, évidemment, en mangeant la pomme, c'était à ce moment-là qu'il commençait à se déchaîner. C'était toujours des souvenirs très, très douloureux. C'est une pièce formidable parce que, qui a soulevé beaucoup de choses. Il y a il se passait des choses dans cette scène. À un moment, il lui met la main sur le sexe. Enfin, je veux dire, ça, maintenant, je sais, les gens jouent à poil. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Je veux dire, il y a des gens qui sortaient, c'est vrai. Il y a des gens qui criaient, qui vont, enfin bref. Et puis, j'ai eu un vrai désamour pour le théâtre. C'est l'époque où j'ai commencé à faire de la télé. J'ai fait plein de télé. J'ai refusé plein de rôles de télé parce que ça ne me convenait pas. Parce que ça commençait déjà à ce moment-là, c'est dans les années 80, 83, 84. Je fais évidemment Médecin de nuit. Pendant que je fais Médecin de nuit, puisque ça a duré 5 ans, je fais beaucoup d'autres rôles à la télé. J'abandonne complètement.
Et des amours, vous parlez des amours carrément,
oui,
c'est fort.
Oui. J'avais plus envie de répéter.
Plein de fois la même chose.
Vraiment, ça, et puis ça correspondait peut-être à une période de ma vie un petit peu difficile, puisque j'ai dit que j'ai eu un enfant très tôt, donc ça veut dire que je me suis marié très tôt, et que ça faisait déjà près de 18 ans que j'étais marié, et donc on a plus 20 ans, ce qui doit arriver arrive.
Vous êtes séparés.
Voilà, et donc c'était une période un petit peu difficile dans ma vie.
Donc la télé.
Voilà, et donc j'ai fait beaucoup de télé, j'ai fait quelques petits rôles au cinéma, mais c'est toujours la même chose, je refusais de... Toujours cette même manière de voir le monde, je ne voulais pas donner la réplique à des gens qui étaient beaucoup moins talentueux que moi. Ça m'a toujours fait chier, ça m'a toujours emmerdé. Donc j'en ai fait, oui, des rôles, mais une de mes fiertés, c'est de n'avoir jamais rien fait pour simplement manger et faire des choses que j'aurais pu regretter. Jamais.
Oui, vous avez parlé notamment dans un autre podcast d'un rôle qu'on vous avait proposé qui semble aberrant, mais qui, ça se trouve, serait proposé aussi aujourd'hui, j'en sais rien.
Voulez parler de Aboubacar, ambassadeur du Burikini.
Ah ouais, c'est effrayant.
Oui. On me l'a proposé.
Est en quelle année? Dans les années 80.
En 86. Ah. Je regrette tellement de ne pas avoir gardé ce script que j'ai déchiré bêtement. Et ils sont allés jusqu'à beaucoup d'argent, hein, jusqu'à près de 20 000 francs par jour. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, 20 000 francs, mais c'est comme si c'est 5 000 euros par jour, quoi. C'est, pour un acteur, 5 000 euros par jour, il y a 4 jours de tournage. Et ils sont allés jusque-là et j'ai refusé. L'anecdote, elle est simple, hein, c'est dans un truc qui s'appelle Maggie.
Une série assez regardée, connue.
Oui, avec Jean-Marc Thibault, Marc Villalonga, il y a un noir très bien habillé qui se présente à la porte, je vous fais le cours, hein, le noir très bien habillé se présente à la porte, la bonne Marc Villalonga va ouvrir, elle dit, madame, il y a un noir très bien habillé qui vous demande, et le médecin, parce que Jean-Marc, le mari, a toujours un médecin qui se regarde, il dit, ah bon, la femme connaît les noirs, on me fait entrer, Aboubacar, je ne me souviens plus.
L'ambassadeur.
Qu'est-ce que tu deviens? Voilà, je suis ambassadeur du Burikini. Tout le monde est scotché, évidemment, il est bien habillé, formidable. Et ils sont en train de parler. Et puis d'un seul coup, le médecin et Jean-Marc, qui sont dans la pièce à côté, mettent la télévision. Et coup d'état au Burikini. Ça alors? Et donc, ils viennent prévenir un chef qui s'en va, qui prend congé, évidemment, un coup d'état dans son pays. Bon. Il va partir, et donc à ce moment-là, je crois que c'est le médecin qui dit à Jean-Marc, dans ces pays-là, il y a tout le temps des coups d'État. Il est parti, donc la vie se passe, et puis un peu après, on sonne à la porte, et il y a un mec avec une cagoule qui ouvre la cagoule comme ça, qui dit, vous me reconnaissez, c'est Aboubacar. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Entrez, madame est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le coup d'État, donc il a été, il n'est plus ambassadeur, il est devenu balayeur. Il faut bien qu'il croûte. Et puis, je la fais courte. Il repart et enfin il revient pour remercier Maggie, parce que Maggie, quand il part, le médecin dit ouais, mais dans ces pays-là, quand ils sont pas tout le monde peut être ambassadeur. Non. Ce que vraiment profondément certains Français croient, à la télévision, que je paye moi aussi en tant que Français noir, que les autres Français noirs payent comme moi. Je la fais courte, il revient, et Maggie qui a intervenu, et il arrive pour remercier, mais il ne va pas décorer Maggie, parce que dans son pays on ne décore pas les femmes, mais il va décorer le mari de Maggie du grand baobab d'or. Bon. Alors on va s'arrêter 3 minutes sur cette chose-là. Un noir Ben, c'est difficile de croire qu'il est ambassadeur. À ce moment-là, sévit un nommé Michel Leeb, hein, qui fait rire la France entière. Hein. Non, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Monter, on dit pas monter négro,
non,
mais monter ambassadeur.
Narines,
oui, non,
Michel
mais c'est ah, ouais. des trucs de Leeb, sur à la télévision, oh, machin. Il a fait une carrière vraiment sur ça. Il y a même... Bon, enfin, ok. Donc, une femme, un noir qui est ambassadeur, non, c'est pas grave, il peut être balayeur. C'est-à-dire que n'importe quel balayeur peut être ambassadeur. Maggie intervient. Donc, ça veut dire que n'importe quelle femme,
blanche.
Bourgeoise, européenne blanche, peut intervenir dans les affaires intérieures d'un État. Deuxième chose. Troisième chose, il est rétabli dans ses fonctions. Donc, il arrête le balai et il redevient ambassadeur. Et enfin... Ils sont tellement sexistes dans son pays qu'on ne décore pas les hommes, mais les femmes, et ils ont tellement pas d'argent parce que, ce que j'ai oublié de dire, le grand baobab d'or est taillé dans un vieux pneu. Je vous assure que c'est vrai.
Tout était écrit.
Alors, il se peut que ma mémoire, etc., puisqu'il y a 34 ans, oui, c'est vieux. Mais pourtant, ils oseraient peut-être pas, mais ce que j'ai entendu dernièrement à la télé, avec Valeur Actuelle, etc., ils osent tout. Donc, et tout passe. Alors on vous dit, bah oui, mais si on ne peut plus rien dire maintenant. Enfin, voilà. Donc oui, ce sont des choses comme ça que j'ai refusées.
Et si vous aviez eu pas de sous du tout, rien,
mais
vous aviez une famille à nourrir
Non, mais je fais autre chose. Je vais décharger des caisses quelque part. Je fais le routier. J'ai de la force. Je suis jeune. Je peux faire les choses. Non, je ne pouvais absolument pas faire ça. Cela dit, il y en a qui l'ont fait. Moi, je ne sais pas comment je me serais vu. Peut-être que je ne serais pas comme je suis maintenant.
En tout cas, il y a un truc assez extraordinaire dans la même veine, pas vraiment, que j'ai découvert en travaillant sur votre interview, que je ne savais pas du tout et qui me paraît fou aujourd'hui. C'est cette histoire de CNC, qui est donc le CNC, on le sait, c'est ce qui fait marcher le cinéma français. C'est ce qui permet au cinéma français d'exister.
Oui.
Et qui n'accordait pas de subventions à des films d'outre-mer jusqu'à ce que, quelque part, vous interveniez. Et encore... Le décret que vous avez fait appliquer, qui est né un petit peu de vous en 92, n'a pas été appliqué avant
14 ans
2014.
Ou 2006, oui. Ouais. 2006 ou 2014.
Non, 2014, 20 ans plus tard.
Abandonné cette affaire.
Non, mais c'est pour dire qu'il y avait même la production culturelle.
Oui, mais je vais vous dire, comme a dit Michel Rocard, et cette phrase je la trouve formidable, toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est certaine. Le complot exige des qualités rares, ou un esprit rare. Je ne sais pas comment il y a dit ça. Oui, le complot exige un esprit rare. 46...
C'est vraiment une phrase importante aujourd'hui, cette phrase
qu'on doit répéter. Ça permet de relativiser. 46, naissance du CNC. On est après la guerre. Les départements et territoires d'outre-mer sont encore des colonies. Le CNC est fait par le législateur pour être appliqué en France, à condition que le nom des départements soit contenu dans les textes eux-mêmes, c'est le texte. Donc, il n'y a pas Guadeloupe, pas Martinique, pas Guyane, pas Réunion. Et donc, le CNC ne s'applique pas. Qu'est-ce que c'est le CNC ? C'est on va au CNC. Voilà, on a un texte à déposer, on a un producteur. Oui, d'accord. Ah ben non, pas nous. Hein. Mais attendez, les Indiens... Les Africains, les Vietnamiens, il y a un guichet, comme on dit, pour eux. Il n'y en a pas pour nous, pourtant on est Français.
C'est pas un complot. En revanche, c'est un impensé. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de l'impensé. Il y a
vous
beaucoup
de
douleurs
dire le
qui
mot,
viennent de l'impensé.
Vous venez de dire le mot, l'impensé. Les départements et territoires d'outre-mer, les derniers confettis qui restent à la France, qui sont un témoin vivant de son passé colonial, c'est un impensé, c'est voire même un refus. Parce que pourtant, cet impensé fait de la France le deuxième plus grand pays maritime du monde. Cet impensé fait de la France le pays qui peut parler, qui est un tout petit pays hein, au bout de l'Europe, qui est beaucoup moins fort que l'Angleterre, beaucoup moins fort que l'Allemagne, bientôt beaucoup moins fort que l'Italie ou que l'Espagne. Et ce petit pays-là parle au monde entier parce que justement, il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, les terres antarctiques australes, etc., etc. Et j'ai oublié la Polynésie française qui est grande comme l'Europe.
Je vous ai entendu dire aussi que c'était pas seulement C'est pas seulement les territoires d'outre-mer ou les dom-toms qui étaient des impensés, c'est tout ce qui sort de Paris en France.
Oui. Je pense que
la
c'est
Corrèze,
ça.
On s'en
je
fout, alors la Guyane, ça. Vous imaginez
je même pense,
pas.
Je pense que vraiment c'est ça. Et ce qui m'étonne le plus, mais bon, ça c'est un petit peu très humain, pas un petit peu, c'est très humain, ce sont ces mêmes Corréziens ou Ardéchois qui arrivent à Paris et qui ne savent plus comment ça se passe en Corrèze ou en Ardèche. Simplement, il n'y a pas de Guadeloupéens et de Martiniquais aujourd'hui encore à la tête ou dans le corpus gouvernemental qui peut dire « Oh, attention, quand même, peut-être qu'on devrait se dire que si on met une heure d'hiver, il n'y a pas d'heure d'hiver en Guadeloupe ou en Martinique ou à La Réunion. » Parce que cette impensée-là a existé pendant près de 10 ans. C'est ce qu'ils se disent, mais c'est une connerie. Toujours privilégier la connerie au complot. Hein. Mais la connerie, quand elle s'adresse, en ce qui concerne le gouvernement aux Outre-mer, ça devient effectivement un impensé. La preuve encore, le chef de l'État, il est formidable, M. Macron, j'ai voté pour lui. J'ai même donné de l'argent pour sa campagne, parce que je pensais qu'il allait être différent des autres. Le chef de l'État a promis, c'est pas pour ça que j'ai voté pour lui, que François, il n'y toucherait pas. Évidemment, c'est la première chose qu'il fait. Sur quelle base ? Il dit tout simplement, c'est merveilleux, c'est prodigieux d'avoir 44 ans, toujours privilégier la connerie au complot. Je continue à le dire. Toujours privilégier
la connerie. Si vous voulez la garder, ce sera
ah oui, oui, parce que il est sûr. Je veux dire, non, mais écoutez, c'est très simple, les enfants. Là, oh, c'est de la pipe, tout ça. Hein, on va mettre ça en place. Non, c'est, faut que ça bouge, tout ça. Hein, hop. Donc, hop, gilet jaune. Mais c'est un pays. C'est pas une page avec des trucs mathématiques. Bon. Donc, on dit, on va supprimer François parce qu'il n'y a pas de raison, et je suis d'accord avec lui, que les Outre-mer ne soient pas dans toutes les chaînes nationales. Oui, d'accord. Mais enfin, si les Outre-mer ne sont pas dans toutes les chaînes nationales, c'est parce que la technostructure nationale elle-même refuse les Outre-mer. Ça me paraît évident. Et la deuxième chose, c'est qu'on donne à ces gens à qui on demande de faire entrer les Outre-mer dans le corpus national des chaînes de l'audiovisuel que nous payons, c'est les mêmes personnes qui ont fossoyé François, à qui on demande de mettre François. Mais toujours, je répète, privilégier la connerie au complot. C'est pas que ça excuse quelque chose, mais on se sent moins mal. On se dit, ouais, pour ça, un con. Voilà. Non, non, mais...
On se sent moins attaqué personnellement,
voilà,
quoi.
On se sent moins mal. On dit, bon, peut-être qu'un jour, il va lire un livre, il va rencontrer quelqu'un. Il va sortir du bunker élyséen. Peut-être, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre qui ose lui parler va pouvoir lui dire ça, mais apparemment, non.
C'est un petit peu comme les histoires de quotas, où on vous dit, dans l'idéal, dans un monde idéal, les quotas n'existeraient pas. On ne vit pas dans un monde idéal, et à un moment donné, il faut oui, partir du monde dans lequel on vit.
Bien sûr. Même si j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne peux pas les dire. Voyez.
Vous ne pouvez pas les dire.
Non, le quota peut s'appliquer parfaitement à un pays comme l'Amérique, parce que les Noirs américains ont fait ce pays. Ils sont dans ce pays. Ils ne sont pas seulement l'impensé de ce pays, mais ils sont dans ce pays. Les Blancs américains écoutent de la musique noire, souvent parlent comme des Noirs, chantent comme des Noirs, leur truc c'est la... Bon, enfin, etc. Les plus grands sportifs américains sont Noirs, bon. Donc l'Amérique, c'est une nation qui a du sang noir, c'est évident. La France aussi, mais elle ne le sait pas. L'Amérique le sait. Donc l'Amérique peut mettre des quotas, parce que tous les Noirs sont américains. Les Noirs d'ici français ne sont pas forcément antillais, mais ils ne sont pas forcément maliens ou sénégalais. Ils viennent de toutes les parties de l'Empire. Ils sont des Noirs différents. Je n'ai pas la même histoire que Rokhaya Diallo, que j'aime bien, ou que Omar Sy, que j'aime aussi bien. J'ai pas la même histoire qu'eux. Moi, mon père n'est pas venu travailler comme terrassier. Je ne sais pas si le père de... Je ne sais pas qui est venu travailler comme terrassier. Mais enfin, mon père n'est... Donc, je veux dire, c'est moins facile, entre guillemets, et c'est pour ça que cette chaîne des Outre-mer était intéressante, parce qu'elle pouvait englober, justement, une autre réalité de la diversité française. Alors que là, si on laisse faire, et c'est normal, on prendra toujours le plus noir, puisqu'il est le plus différent. On prendra même souvent celui qui parle le moins bien, puisqu'il est le plus différent. Et qu'en France encore aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer la différence. Or, c'est pas ça qu'on demande. On demande de montrer que, simplement, ben, les Français, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ils ne sont pas différemment français. Et je n'arrive pas à comprendre comment il se fait que nous sommes un pays de gens quand même intelligents qui ont pensé, la France a donné de grands philosophes, de grands penseurs, que nous n'arrivons pas à penser ça, que nous n'y arrivons pas, que les gens qui pensent ça, c'est Yann Moix, c'est Zemmour, c'est... Je dis, mais qu'est-ce que c'est descendu tellement bas. C'est-à-dire que c'est descendu si bas que personne ne peut être en face de ces gens-là pour parler. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Mais on ne m'invitera jamais pour en parler, parce que je pourrais parler avec Yann Moix, je pourrais parler avec Éric Zemmour.
Et vous diriez oui, pour le coup ?
Oui, il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire, oui, bien sûr. Politique de chaise vide, jamais. J'attends, je dis. J'ai entendu Yann Moix dire ce n'est pas aux gens victimes de racisme d'en parler. Ah bon ? D'accord.
On continue à privilégier la cause.
C'est osé, mais bon, on peut y aller. Je comprends, d'accord. Donc, c'est parce que comme un blanc qui dit sale nègre, ben, il se déshonore en disant ça. Bon, d'accord, ouais, c'est bien. Donc, le noir n'a pas à se sentir offensé. Ah bon, très bien. Toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est certaine. Le complot exige un esprit rare.
Quand l'entretien s'est terminé, on a évoqué avec Greg Germain le déboulonnage de certaines statues, notamment en Martinique. Déjà, il nous a rappelé que c'était pas nouveau en France de déboulonner des statues, que Napoléon était tombé plus souvent qu'à son tour pendant la Restauration, par exemple. Et puis surtout, il nous a fait un cours d'histoire, le genre de cours d'histoire qu'on devrait vraiment avoir à l'école et qu'on n'a pas tout à fait, sur des Guadeloupéens hein, comme Delgrès, qui ont activement participé à la fin de l'esclavage, en Guadeloupe comme en Martinique. Delgrès, c'est d'ailleurs le nom d'un groupe de musique qui font du blues créole. C'est super beau, je vous conseille d'écouter. Pour résumer, déboulonner des statues, c'est pas forcément son truc à lui. En revanche, dit-il, on serait bien inspiré d'en ériger de nouvelles. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, et on est obligé d'en parler. C'est votre rôle en tant que voix de Will Smith, que j'ai quand même un petit peu envie d'entendre. Bon, je vous obligerai à la fin à me dire quelques mots en Will Smith. Hein, c'est une langue
quasiment... Mais ce que je vous dis, c'est en Will Smith, c'est ça
Non, vous la changez un petit peu votre voix quand vous faites Will Smith.
Non, ça dépend. Non, on va parler de Will Smith. Quand il y a 30 ans, 89, il y a 30 ans, on m'appelle, c'était la SOFI, la Société de Sonorisation de Films, voilà, qui m'appelle pour me dire, voilà, on a
une série
qui s'appelle Le Prince de Bel-Air, et on aimerait t'essayer là-dessus. Donc, je dis, ouais, bon, j'arrive, et je vois ce type, et je vois sa façon de parler. En fait, le doublage, c'est au-delà de la voix, c'est le rythme de la personne que l'on double, c'est son souffle intérieur, c'est ça qu'on double. Et je dis d'accord, mais je vais quand même lui donner une voix d'ado. Parce qu'il n'a pas une voix d'ado, là, et je pense que ça lui irait bien. Il a sa voix normale de mec de 23 ans ou 24 ans, oui, c'est ça. Une voix qui n'a pas encore beaucoup fumé, beaucoup de whisky, mais enfin bon, une voix de mec de 24 ans. Je dis, mais comme il fait comme ça, je vais lui donner une voix d'ado. Et ouais, et comme ça, et puis alors comme ça, de temps en temps, il y a la voix qui casse. Bon, donc c'est ça la voix de... Mais c'est pas du tout sa voix dans Le Prince de Bel-Air. C'est pas du tout sa voix, c'est ma voix que j'applique. Et tout le monde dit, ah ouais, hey, jazz, ouais. Mais c'est pas du tout sa voix. C'est pas comme ça qu'il... Enfin, c'est comme ça qu'il fait, c'est le rythme.
Il vous a quand même dit que vous aviez un peu la voix de son père.
Oui.
Donc, oui, ça doit pas être si loin.
Non, bien sûr. Alors après, il y a le timbre et la tessiture, évidemment. Bon, et plus il vieillit, et plus nous accordons. Mais il m'est arrivé de ne pas faire un film de Will Smith parce que la personne, je me dis, c'était encore toujours privilégié à la connerie au complot. Il y a le mec qui a dit, mais j'ai fait des essais. Le mec a dit, mais c'est pas du tout la voix de Will Smith. Et alors, gueule du directeur de plateau, parce qu'il y a un directeur qui dit, mais oui, mais c'est pourtant bien les sept Grecs germains, c'est les sept Grecs, ça. Oui, c'est les sept Grecs germains. Mais c'est pas ça, sa voix. Tu dis, mais enfin, c'est lui qui le dit tout le temps. Il y a vraiment des cons. Donc, c'est pas très grave. Et puis, il y a aussi plein de fois où je l'ai pas fait. Parce que je refusais de travailler avec telle maison, c'est mon privilège. Mmh. C'est vraiment ce que... Bon. Et d'autres fois parce qu'on ne me payait pas assez. C'est aussi mon privilège. Et d'autres fois parce qu'on s'est dit, celui-là, il nous fait chier, on va prendre quelqu'un d'autre. On a pris, par exemple, pour Gemini Man dernièrement, ils ont pris, je ne sais plus comment, toute chose égale par ailleurs, qui doit être un excellent acteur, j'oublie son nom.
Pour les animés aussi, j'imagine, qu'ils prennent d'autres...
Tout ça parce que c'est mieux de prendre un acteur célèbre.
Kev Adams, par exemple.
Kev Adams.
Non, non, je pense pas qu'il ait vu la voix de Will Smith.
Mais un mec...
Anthony Kavanagh.
Ça a marché, puisque je m'en souviens même pas. Et puis après, tout, sur mon truc, là, tous les internautes qui disent « Mais c'est quoi cette voix ? C'est pas du tout la voix de Will Smith. » Ils sont revenus en arrière. Ça leur a coûté de l'argent, c'est tout.
Bon, en tout cas, depuis qu'on a commencé à en parler, j'entends plus Will Smith. Est-ce que, du coup, ça vous a... Enfin, ce que j'allais dire, il y a quand même un truc en France en ce moment dans l'activisme noir, etc., où on regarde beaucoup vers les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé aussi? Je ne sais pas pourquoi je vous pose cette question en rapport avec la voix de Will Smith, mais c'est parce que comme Will Smith est une figure aux États-Unis aussi,
mais vous avez
très regardée.
Ouais. Oui, mais vous avez tort de dire que les noirs, entre guillemets, français sont... Je souffre beaucoup de voir que les Noirs américains, notamment les athlètes noirs américains, sont sur tous les fronts en ce qui concerne ce truc-là. Les athlètes noirs anglais, le match de championnat aujourd'hui, du championnat anglais, qui est le championnat le plus regardé au monde, de football, les gens se mettent à genoux et ils lèvent le poing. Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde de course automobile, c'est quand même pas rien. Il a quasi forcé la F1 à faire ça. Je cherche Teddy Riner, je cherche Marie-Jo Pérec, je cherche la reine Christine. Magnifique. Vous ne vous souvenez pas parce que vous êtes trop jeune, mais sur 100 mètres, Christine Aron. Marie-José Pérec sur 200 et 400.
Où sont ces voix?
C'est quand même tragique. Où est Teddy Riner, qui est adoré, c'est la personnalité la plus...
Omar Sy.
Il a peur, il se dit, il y a quelqu'un qui va le gifler, c'est le champion du monde de judo, bon, enfin bref.
C'est pour ça qu'au tout début, quand vous m'avez dit « je sais pourquoi vous êtes là », c'est parce que c'est moi, et ce qui me fait de la peine, c'est que ce soit toujours moi.
Voilà.
C'est pour ça que vous dites ça ?
Oui, c'est pour ça que je dis ça. Je trouve quand même que, bon... Alors, j'aime pas trop dire mon âge, évidemment. Il y a quand même des mecs qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui... Enfin, je sais pas, moi, je... Alors, bon, bien sûr, ils sont pas connus, etc., mais il y a des athlètes de très haut niveau. Vous l'avez entendu, Teddy Riner, à propos de George Floyd, ou je sais pas, ou de dire à la télé, tiens, je veux parler, vous m'interviewez, mais je voudrais dire quelque chose sur la situation des... Motus bouche cousue.
Mais parce que c'est dangereux, vous pensez, pour leur carrière ? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à 50 ans, on pense qu'à soi ?
Oui, mais enfin bon, devant Lewis Hamilton, il a 30 ans, je veux dire, devant ce genre de choses, on se dit, bon, il faut que je bouge aussi.
Après, il y a un vrai activisme qui est très vivant aujourd'hui en France. Quand même.
Oui, non, mais ce sont des activismes occasionnels, ce sont des activismes, non pas... j'allais dire parfois même idéologique, mais Traoré, c'est un activisme pour Traoré. C'est pas pour... Je veux dire, nous n'avons pas encore aujourd'hui, et c'est en vain que j'essaye de le, entre guillemets, provoquer, nous n'avons pas encore d'activiste qui va dire, mais nous ne voulons plus aussi souvent M. Zemmour, M. Moix, M. Machin, s'exprime sans que nous ayons au moins la parole, et ne prenez pas qui vous voulez. Et surtout, arrêtez de parler en mon nom, parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas comment je suis. Moi, je suis votre enfant. Je suis votre fille. Je peux dire ça à tous ces énarques. Je suis votre enfant. Je sais ce que vous pensez, puisque je le pense comme vous. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que je pense, parce que vous n'êtes pas moi. Et je crois que c'est cette chose-là qui peut-être manquer tant aux intellectuels français, et pourtant il y a de grands intellectuels, je vous assure, il y a de grands intellectuels martiniquais, guadeloupéens, il y en a un qui est mort dernièrement, qui était mon ami, je me flatte vraiment, il s'appelle Édouard Glissant, et c'est lui qui a parlé de la créolisation. Et Édouard a dit cette phrase extraordinaire, je vais la dire même si je ne suis pas trop sûr de bien la répéter. Et je promène mon regard sur les paysages de la connaissance française. Remarquez bien les choses. Il ne dit pas je vois ou je regarde. Je promène mon regard sur les paysages. Vous voyez comment on se promène. Sur les paysages de la connaissance française. Non comme le voyageur qui n'attend des monuments que la quittance de son départ, mais comme tel qui apprivoiserait le doute de savoir. Et je devine déjà qu'il n'y aura plus de poètes sans tous les poètes, plus de civilisation qui puisse se dire métropole des autres. Et avec ce regard qui m'éclaire, je décide de voir la France avec le regard du fils et la vision de l'étranger. Édouard a écrit ça, ça s'appelle « Soleil de la conscience », il a écrit ça en 1956, il avait 26 ans, comme Césaire d'ailleurs, cahier d'un retour au pays natal. Et ce sont des paroles philosophiquement extraordinairement profondes. Voir quelqu'un ou un pays avec le regard du fils, ça veut dire que de toute façon, ce pays, c'est le sien. Donc, on le regarde comme ce qu'il est. C'est à moi. Peut rien lui arriver.
On regarde sa famille.
Mais avec la vision, exactement. Mais avec la vision de l'étranger, on sait. Oh, dis donc, faudrait changer la porte. Ah bon, tu la trouves abîmée? Ben oui, regarde toi-même. Ah oui, c'est vrai, elle est abîmée. C'est la vision de l'étranger. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. On voit que ça, ça va pas. Si seulement la France pouvait un jour accepter ce qu'elle est, sans les crispations identitaires que l'on sait, et ce qui me chagrine le plus aujourd'hui, c'est qu'il me semble que ce jeune chef de l'État fait tout pour que, justement, il n'y ait qu'une seule tête. Alors que tous les pays qui sortent du lot aujourd'hui, personne n'a envie de ressembler à un Allemand. Personne n'a envie de ressembler... Non, attendez, personne n'a envie de ressembler à un Allemand. En revanche, on a tous envie de ressembler à un Américain, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont divers, ils sont...
Enfin, l'Amérique d'aujourd'hui, c'est compliqué aussi.
Mais... Non, mais enfin, personne n'a envie de ressembler à... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On est multiples, on est divers, on est plein de choses en France, et on refuse ça.
C'est ça, l'immense tristesse de la chose, c'est que c'est une richesse extraordinaire qui...
Mais oui.
Oublier, c'est comme c'est refuser voilà, de...
C'est ce que je pense aussi. Mais, comme je répète, et ça sera le mot de ce podcast, toujours privilégier la connerie au complot.
Enfin, la connerie peut faire de gros dégâts.
Elle fait de gros dégâts, oui, elle fait peut-être même plus de dégâts que le complot.
Mais elle laisse le bénéfice du doute,
laisse le bénéfice du doute, alors ça ne crispe pas trop. Bon.
En tout cas, est-ce que ça fait depuis quasiment le début que vous avez voulu faire des ponts avec le théâtre, avec l'art d'outre-mer, parce que vous avez quand même ouvert un théâtre, vous...
Oui. Non.
C'est venu au fur et à mesure
ça... Oui, parce que...
Et c'est venu de l'impensé, est-ce que...
Non, parce que jusqu'à 50 ans, on ne s'occupe que de soi. On a envie que d'être beau, que d'être le premier, que de briller aux yeux de toutes les femmes qu'on rencontre. Même si je connais des gens de beaucoup
plus de 50 ans qui aiment toujours briller aux yeux des femmes.
Heureusement d'ailleurs, c'est formidable. Et puis bon, en 98, c'est toujours la même histoire. C'est aussi des révoltes dans ma pensée d'homme. En 98, je trouve ça très bien, le gouvernement Jospin décide de faire la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et le slogan qu'il imagine, c'est « Tous nés en 48 ». Alors, bien sûr, parce que c'est la République... 1848. Parce que c'est la République qui a... On oublie qu'il y a eu une première République, une première convention qui a aboli l'esclavage. C'est pas grave. On oublie qu'une première fois, on a aboli l'esclavage et que Bonaparte l'a rétabli, Napoléon même, le premier consul. Bon, d'accord, oublions ça. Mais 48... Slogan « Tous nés en 1848 ». 98, slogan « Tous nés en 1848 ». Mais j'ai eu des ancêtres qui ont souffert sous le joug de l'esclavage. Je fais pas de truc particulier. Moi, je suis sûr qu'un de mes ancêtres a dû écrire une des plus belles pages d'histoire d'amour de sa vie, parce que déplacé sur une autre plantation, il a sûrement traversé 10 kilomètres ou 15 kilomètres, c'est pas des grands pays, pour aller sur l'autre plantation voir la femme qu'il aimait ou les enfants qu'il avait été obligé d'abandonner. Je suis sûr que j'ai un de mes ancêtres qui a fait ça. Je l'aurais fait, moi. Donc, je sais que j'ai dans ma famille des héros. Pas la peine de l'écrire sur un livre, je le sais. Dans mon cœur, dans ma tête, c'est là. Donc, m'en fous. Oui, descendant d'esclaves, parfaitement. Mais il a existé, ce mec. Il a existé. Donc pourquoi dire tous nés en 1848 me faire naître en 1848 ? Non, c'est pas la République qui m'a fait, etc. Donc je vais à Avignon, je trouve un théâtre, je le fais d'abord de mes mains puisque l'État refuse de m'aider. Et puis après, l'État m'a aidé et je fais venir des compagnies d'outre-mer. Ce théâtre existe encore, hein, c'est dans, le couvent du Verbe incarné qui existait à Avignon, c'est la chapelle du Verbe incarné, je n'ai rien inventé, c'est l'ordre du Verbe incarné qui est comme ça. Et vous voyez, ça va faire 24 ans que ce théâtre a lieu. Et vous allez voir comment c'est un impensé, même si, et je répète encore, toujours privilégié, etc., la connerie au complot. Le ministère de l'Outre-mer m'a demandé de signer nos aides, ainsi que le ministère de la Culture. Eh bien, le ministère de la Culture, petit à petit, enlève un petit peu de sa subvention. Il en est même à 10 ou 15 000 de moins. Parce que mon théâtre, je donne un théâtre en ordre de marche, je fais la pub, le machin, le truc. Bon, enfin, pas comme à Avignon. Je loge les compagnies et tout ça. Bon. Donc, je reçois de l'argent pour ça, une subvention pour ça. Eh bien, le ministère de l'Outre-mer a signé une convention triennale, comme ça se fait avec beaucoup de compagnies ou beaucoup de théâtres, jamais le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, toujours pas. Et le ministère de la Culture ne veut pas. Je sais bien que ça n'est pas qu'un impensé. Il n'y a pas de directeur de théâtre noir en France. Ça n'existe pas.
Même il y a des cyclistes. Il
y a Guadeloupe en Martinique, oui, on consent à en mettre quelques-uns. Mmh. On a consenti depuis peu. Mais enfin, quand même, on ne peut pas être directeur de théâtre, franchement. C'est incroyable, ce pays est un peu insensé. Il marche sur la tête et il ne le sait pas.
Et surtout, il n'a pas beaucoup bougé depuis...
Non, depuis c'est ça qui est le constat. En même temps, ça a bougé, vous êtes là. Ça va sortir.
Oui, oui. En 1960, le président du Sénat était noir.
C'est vrai. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a eu plein de régressions, mais je l'ai dit hein, aussi avant. J'ai l'impression qu'il y a eu régression parce que, je répète, je sais que je n'aime pas ce terme lepénisation, je trouve ça très con, mais je sais que cette chose a été instillée dans les veines de la France. Comme Césaire avait une phrase extraordinaire, il disait « Et un jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent. » Les chevalets fonctionnent. On dit, c'est le nazisme, ça passera. Mais on se tait à soi-même l'incroyable vérité. Que c'est du nazisme, certes, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a soutenu, on l'a adoré, tant qu'il s'adressait à des peuples qui n'étaient pas européens. Que ce racisme-là, il habite le bourgeois, et que ceci contribue, écoutez bien, à l'ensauvagement de l'Europe. Ce mot ensauvagement, ça n'a pas du tout été inventé ni par Marine Le Pen, ni par Gérald Darmanin. Ça a été écrit dans Discours sur le colonialisme par Aimé Césaire en 1956.
Et ça voulait dire pas du tout pareil.
Et pas du tout la même chose. L'ensauvagement du continent, il parlait de l'Occident.
J'ai deux dernières questions à vous poser, Greg Germain, qu'on pose à tous nos invités. La première, c'est est-ce que c'était mieux avant ? Et vous la prenez comme vous voulez, dans le sens que vous voulez.
C'était mieux avant. Avant quoi ? Quand je partais jouer au football, avant quand je sortais en boîte, avant quand je conduisais ma Jaguar ou c'est bien tout le temps.
Est-ce que le futur c'était mieux avant ?
Ça, c'est la vision prophétique du passé, et je ne la connais pas.
Est-ce que vous avez peur de mourir, Greg Germain ?
Non.
Pas du tout ?
Non, pas du tout.
Comment ça se fait ?
Ça... Alors, attends, peur de mourir, on ne peut pas dire... C'est la négation même de vivre que de se dire « j'ai pas peur de mourir ». Je sais que c'est inéluctable. Il y a une grande phrase de Shakespeare qui dit, en anglais, « of all the wonders by... » Enfin, je voulais... De toutes les merveilles qu'il m'ait été donné de voir, il me semble très étrange que l'homme, that man should fear, que l'homme puisse avoir peur, sachant que la mort, une fin nécessaire, viendra quand elle viendra. Et on sait quand on est, enfin, on a la date de sa naissance, mais ça serait trop facile. Non, je me dis, Non, je sais pas. Oui, ça me fera chier. J'ai pas peur, ça m'embêtera.
Quand même.
Ouais, ça me fera chier, oui.
Dites-la nous en anglais, cette phrase, pour qu'on l'entende.
Of all the wonders that I yet have seen, it seems to me more strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come. Je crois que c'est Richard II qui dit ça, je crois.
Shakespeare.
C'est pas... chercher dans Wikipédia. Of all the wonders that I yet have seen.
Est-ce que Will Smith peut me dire au revoir, Marie, comme ça, juste pour mon petit plaisir?
Hey, Marie, t'es venue me voir ce soir, c'est sympa. Ouais, salut. Mais c'est pas Will Smith, c'est le prince de Bel-Air, ça. Parce que le prince de Bel-Air, c'est pas Hitch.
Non, c'est pas, ils ont pas le même âge. Hein.
Voilà.
Un immense merci à Greg Germain et à sa voix pour ce temps qu'il nous a accordé. J'aimerais terminer sur un texte qu'il nous a fait lire au moment où on quittait son appartement. C'est un texte sur la créolitude, sur la richesse d'appartenir à deux mondes, voire plus. Il est de Derek Walcott, je vous le dis tout de suite. J'accepte cet archipel des Amériques. Je dis à l'ancêtre qui m'a vendu et à l'ancêtre qui m'a acheté, je n'ai pas de père, je ne veux pas d'un tel père. Bien que je puisse vous comprendre, fantôme noir, fantôme blanc, quand l'un et l'autre vous murmurez « histoire ». À vous, grand-père, à qui intérieurement j'ai pardonné, je vous adresse, comme les plus honnêtes de ma race, un étrange merci. Je vous adresse un étrange, amer et pourtant exaltant merci pour cette immense friction et soudure de deux grands mondes. Pareil aux moitiés d'un fruit jointe par son propre jus amer, je vous remercie de m'avoir placé, exilé de vos propres Édens, dans la merveille et le prodige d'un autre. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, réalisation Aurore Meilleur-Mailleux, mixage Laurie Galligani, coordination et prise de son Marine Roux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.